Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être présents. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle rencontre en compagnie de Serge Joncourt. Bonjour Serge.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, bienvenue à vous pour cette conversation. Très heureux de vous retrouver. Vous êtes l'auteur à ce jour d'une douzaine de romans. On était en train de dire que vous publiez effectivement beaucoup et bien. Une douzaine de romans, bien sûr, la plupart publiés aux éditions Flammarion. On se souvient de L'Idole, de L'Homme qui ne savait pas dire non, Repose-toi sur moi. Nous étions ici même il y a quelques années pour parler ensemble d'un livre qui s'appelle L'amour sans le faire, qui est un livre dont on reparlera parce qu'il me semble qu'il y a peut-être des jonctions à faire avec ce livre-là qui s'intitule Chien-loup, donc qui est votre nouveau roman publié en cette rentrée littéraire. Je vais en dire un tout petit mot et puis je vais bien sûr tout de suite me tourner vers vous. Donc Chien-loup, vous mettez en scène un couple de Parisiens, donc Franck et Lise, qui travaillent tous les deux dans le cinéma. Elle est une comédienne qui est plutôt dans un moment de sa carrière un peu en dégringolade. Lui, Franck, est un producteur de cinéma. Et ils décident tous les deux, sur l'impulsion d'ailleurs de Lise, de passer leurs vacances dans un gîte. Alors vous allez me corriger, vous me redirez ça tout à l'heure, dans le Lot, dans le Causse-Vert précisément. On reparlera de ce lieu-là en particulier. Un gîte coupé de tout, dans une zone qui est à la fois une zone hors connexion et ce que vous appelez aussi une zone noire, hein, on y reviendra. Et donc ça, c'est le premier fil narratif du livre. Et puis, il y a, intercalé à cette dimension contemporaine, une histoire qui se passe 100 ans auparavant, donc en 1914, au moment de la Première Guerre mondiale, dans ce même lieu, dans ce même village et dans ce même gîte qui surplombe le village. On va évidemment parler de cette interaction entre les deux temporalités et puis de ce lieu commun, finalement, aux deux époques. Et on va parler de beaucoup de choses qui sont évoquées dans ce livre, notamment la question de la part animale de l'être humain, du rapport à la sauvagerie, à la civilisation, et aussi beaucoup d'autres sujets, puisque dans ce livre-là, il est aussi question de la violence, du désir, du couple, de l'amour, du cinéma, de Netflix, enfin, énormément de choses qu'on suit au fil de ce beau roman. Peut-être je vais commencer avec une question justement qui nous ramène à ce précédent livre que j'évoquais tout à l'heure, L'amour sans le faire, dans lequel il y avait déjà un personnage qui s'appelait Franck. Il y a eu entre-temps d'autres livres, on pense notamment au Ludovic du livre précédent qui s'intitulait Repose-toi sur moi. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ces différents personnages? Est-ce que vous avez l'impression est-ce que le jeu du prénom est simplement, un jeu littéraire, ou est-ce que vous avez l'impression que ces personnages appartiennent à une forme de communauté, qu'ils sont des avatars, des éventuels alter-ego, des personnages qui se répondent? Comment est-ce que vous envisagez ces différents personnages dont certains ont le même prénom?
Ah oui. Alors, moi, je suis toujours très... Je comprends très vite les questions, mais en fait, parce que c'était dense, votre présentation, et... C'est vrai qu'à chaque fois, ça me renvoie, en plus du roman que vous évoquez, ça me renvoie à un souvenir personnel, parce que chaque roman est lié à un souvenir personnel, ou en tout cas une période de ma vie. Mais c'est vrai pour tous les auteurs. Hein. Comme je publie tous les deux ans, et il se trouve que dans la vie, on change. Hein. Tous les deux ans, voire plus. Enfin, j'ai le sentiment de changer sans arrêt, même physiquement. Enfin bon... Ouais. Quand on voit des photos, des correspondances en 2006 ou 2000, je dis, tiens, il y a ce type, il me ressemble un peu. En fait, je me rends compte que c'était vous. Et puis, vous ne changez pas. Enfin, je veux dire, prenez-le comme un compliment. Hein. Mais tous ces êtres-là, c'est un peu des émanations de moi, ce Ludo. Alors, Ludovic, c'était le roman précédent. Et c'est vrai qu'en l'écrivant, je m'étais mis un peu à essayer de lui... Enfin, malgré moi, à lui ressembler, j'avais pris 10 kilos, par exemple. Et ça, on l'entend dire, en particulier chez les comédiens, hein, qui, pour un rôle, prennent du poids ou en perdent, enfin, bon, tout ça. Et moi, j'ai un peu ce sentiment-là, pour ressentir mon personnage. Parce que quand j'écris un roman, alors, ça dure 2 ans, je ne sais pas pourquoi, hein, mais je suis en permanence... en train d'y penser, enfin, c'est quelque chose. J'écris d'une façon un peu comme les pompiers sont en alerte 24 heures sur 24. Moi, c'est un peu pareil. Je suis dedans, donc je le vis. Alors, c'est un double avantage, c'est d'essayer d'en faire quelque chose et en même temps de sortir un peu de ma vie, enfin de mon quotidien. Qui est, bon, voilà, le quotidien. On a tous nos problèmes. Quand bien même j'aurai rendez-vous chez le dentiste ou autre, je suis avec mon personnage face à ce chien loup et c'est ça qui me préoccupe vraiment. Et quand je ressors, je peux avoir plein d'idées. Alors souvent, les idées viennent quand on est un peu contraint. C'est difficile d'être plus dans la contrainte que sur le divan d'un dentiste, j'allais dire, ou le fauteuil d'un dentiste. Parce que là, effectivement, et c'est là souvent que l'imaginaire se réveille, quoi. Je suis convoqué par cette histoire. Il dit, tiens, mais finalement, si ce chien allait s'approcher de lui et lui allait lâcher le couteau, vous voyez, enfin, des choses comme ça, parce que j'écris au fur et à mesure, au jour le jour, je découvre cette histoire en train de s'écrire. Et là, c'était d'autant plus difficile ou délicat pour Chien Loup, c'est qu'il y a deux histoires sur deux époques, avec des personnages totalement différents. Donc, oui, je devenais un peu fou moi, dans cette histoire. Mais ça m'occupait doublement. Donc c'est un roman, pour l'écrire, il faut que ça procède du sortilège, de la possession. Il faut être possédé par l'affaire, quoi, au point de ne plus penser qu'à ça. Et voilà, bon. Donc tout c'est, pour répondre à votre question quand même, une fois, au moins une fois.
Ce sera fait.
Ça sera fait. Ils sont tous, ces personnages, à me visiter, oui. Et quand je vais dans tel ou tel décor, dans tel immeuble, je pense à Ludo et à Aurore. Et puis là, quand je retourne dans la maison dont il est question, qui est une maison qui est réelle, enfin qui est une maison où je vais, moi, enfin voilà, et bien me revient. Alors c'est là que c'est curieux parce que à certains moments, je ne sais plus si je suis dans le roman ou dans la vraie vie, quoi. Mais ce chien loup, de la même façon, il existe. Il existe réellement. C'est un chien qui m'a adopté. Façon séquencée, c'est-à-dire quand je suis là-bas, il vient et il repart quand je m'en vais. C'est un peu étrange, mais c'est une relation amicale, on pourrait dire. Ce qui en soi est original, parce que les chiens en général, c'est aux autres, à moins d'en avoir un. Mais enfin, je veux dire, on n'est pas amis avec un chien d'un autre, quoi. Mais là, c'est lui qui m'a un peu choisi. À partir de là, eh bien, quand il revient, je vois à la fois venir le chien, et en même temps le personnage de mon roman. Tout ça devient très trouble. Hein. Je vous sens un peu inquiet pour moi.
Pas du tout. Non. Serge, je suis pas du tout inquiet. Au contraire, je vous écoute. On a eu très souvent l'occasion de parler de votre travail. Je me réjouis de parler de votre travail avec vous. Oui. Est-ce qu'on peut dire un mot précisément de ce lieu dont vous dites qu'il a l'air d'être proche de vous dans la vie réelle ? Il y a deux éléments. Il y a le premier élément autour de ce lieu. C'est à la fois, je dirais, le fait de s'extraire de la frénésie de la ville, de la connexion, etc., etc. Et en même temps, c'est un lieu que vous évoquez dans le livre comme étant un lieu qui n'a pas bougé au fil des années, voire au fil des siècles. C'est-à-dire que c'est un endroit qui est presque vierge de l'action de l'homme. Est-ce que c'est ces deux dimensions-là qui vous intéressent, outre le fait que c'est un lieu que vous connaissez vous personnellement ?
Oui, c'était sans ce lieu, sans l'avoir rencontré, cette maison, je n'aurais pas écrit ce roman, parce que c'est très lié à cet endroit. Mais c'est un endroit insolite en ça qu'il est effectivement au-dessus d'une colline qui elle-même domine les autres. Ce qui est une situation pas si courante, finalement, parce que mettre une maison sur une colline, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, ça en avait du temps où c'était des vignes, parce que, voilà, bien avant, c'était une maison vigneronne, mais il n'y a plus de vignes. Le phylloxéra est passé par là, etc. Enfin, bon, bref. Et depuis, il y a des chênes autour, mais comme les paysans autour avaient mis le feu pour essayer de mettre le feu à cette maison, donc ça fait des flancs de coteaux qui sont vierges, qui sont en prairie. Les chênes ont brûlé. Enfin, bon, tout ça crée un endroit insolite. Et il est, cet insolite, il est palpable, il est sans, enfin je veux dire, on y serait tous sensibles, quoi. Et donc la coïncidence, c'est de rencontrer ce lieu, quoi. Ça c'est aussi, pour faire un roman, il faut beaucoup de chance, hein. Enfin beaucoup de chance, il faut beaucoup de hasard en tout cas, malencontreux ou pas, mais enfin le chien, la maison, le producteur, le dompteur, tout ça, je ne les ai pas vraiment inventés, donc c'est pour ça que je suis un peu soumis à être un peu offert comme ça, à la vie et aux péripéties pour essayer d'en retenir quelque chose à un moment ou à un autre. Et si je n'étais pas aussi attentif à ce qui se passe autour, je n'aurais pas collectionné ce dompteur. Alors, le dompteur, je le voyais il y a 25 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui est mort il y a une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et qui est un dompteur allemand, qui habitait dans le Lot, qui s'était réfugié dans une maison sur une colline aussi, enfin bon, ça c'est... et qui affolait un peu tout le monde autour, voilà. Mais sachant que la moitié le prenait pour un mythomane, et d'autres, dont j'étais, avaient pris le parti de le croire. Et effectivement, alors, aujourd'hui, on fait des recherches plus facilement avec Internet. Hein. Ce dompteur était 10 ans chez Barnum, et à l'époque, ça avait valeur de... Oui, on considérait comme le plus grand des dompteurs. Alors, en même temps, dompteur, le rapport que j'ai au mot dompteur, aujourd'hui, il y a 25 ans, c'est plus le même. Un dompteur, c'était impressionnant, écrasant. Aujourd'hui, ça serait presque honteux. Enfin, il faut plus parler des dompteurs. Et donc, c'est en le replaçant en 14, je reconnectais avec l'imaginaire que je supposais, ou que je peux traduire. Parce que des cirques, il y en avait partout. Hein, et il y en avait précisément un le jour de la déclaration de guerre, pas loin de l'endroit dont il est question. Et effectivement, ce jour-là, eh bien, les jongleurs et les clowns ont pris leur carnet militaire et... Et le dompteur, on ne sait pas. Mais moi, j'imagine mal un dompteur lâcher ses fauves pour partir sur le front. Enfin, je sais. Donc, à partir de là, c'est là que l'imaginaire prend le relais. Et je le transpose sur cette colline où était le dompteur qui a vraiment existé. Enfin, bon, tout ça, c'est un peu fou. Mais il n'empêche que ça tient debout. Enfin, ça serait cohérent. Alors, tout ce que j'ai pu savoir sur le cirque Pinder qui était dans le Lot et Garonne, c'est que l'éléphant avait servi à remplacer les bœufs et tirer la charrue. Quoi. Il y a des photos aussi. C'est des preuves. Il y a un moment, si vous voulez, c'est vrai que... Enfin, moi-même, vis-à-vis de moi-même, il faut que je me justifie en permanence. C'est-à-dire, tu t'inventes un dompteur, mais est-ce qu'il a existé ? Oui. Ah, d'accord. Bon. Et alors, cette histoire de fauve... Non, il n'y a pas les fauves, mais il y a un éléphant. Et tu as la photo. Oui. Vous voyez, j'ai besoin de me valider un peu par le réel. Mais après, bon, je me laisse un peu aller, l'imagination prend le relais, et, au point de mélanger ces deux histoires. Et bien souvent, alors je me suis documenté pour la partie 14, mais pour ce que j'ai plus ou moins inventé, il se trouve que j'ai rencontré... Oh là là, je digresse, mais alors c'est pas possible. Non, mais pas... Non, parce qu'il y a Éric Baraté a écrit un livre sur les animaux en 14. Hein, et alors j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Lyon, bon, ben, bref... Hein. Et je voulais un peu certifier certains éléments, parce que quel rapport on avait avec le chien ? En 14, le chien, ça représentait quoi pour un fermier ? Vous voyez, en fait, c'était, bon, voilà, c'était un instrument de travail. Ça servait pour garder les bêtes. Quoi. Et quand j'essayais de valider certains éléments, il s'est mis à me parler de son chien qui avait du diabète. Alors bon, il allait acheter des croquettes aux Pays-Bas, tout ça. Enfin bon... Et j'ai failli lui dire, non, pour mon roman, y a pas, le chien n'a pas de diabète. Enfin,
on va s'arrêter au chien.
On va s'arrêter au chien. Et je suis là toujours à essayer de contenir un peu les éléments du réel pour que ça rentre là-dedans et à tout moment, on veut m'en sortir. Donc, au moins, quand le livre est fait, tout ça, c'est apaisé. Là, et c'est là-dedans et ça ne bougera plus. Quoi, hein,
et il faut que moi, je revienne vous poser des questions sur le sujet. Quoi.
Oui, ça remet du désordre, ouais. Ce que je veux dire.
Est-ce que peut-être on peut dire un mot de la partie contemporaine et de l'arrivée de Franck dans ce gîte et dans cet environnement où, d'une part, la première des angoisses fondamentales de Franck est de se rendre compte qu'il n'y a pas de barre de captation sur son téléphone. L'autre chose, c'est finalement quelque chose qui est de l'ordre de la peur. C'est-à-dire que le premier contact avec cette nature ou avec ce lieu-là, c'est la peur des bruits, c'est la peur du noir.
Bienvenue.
Ouais. C'est vrai qu'il faut du hasard pour écrire un roman.
Je crois qu'elle a une question à poser.
Il se passe toujours un truc incroyable avec
ça. Pas farouche, hein. Très étrange, ça. Bon, allez, oui, on se revoit tout à l'heure. Si tu veux.
Sur cette dimension-là, est-ce que ça, c'était une des premières choses là, je dis la peur, mais en tout cas, l'inadaptation, c'est quelque chose qu'on lit aussi dans d'autres endroits, c'est-à-dire un homme, finalement, votre Ludovic du livre précédent, il ne savait pas quoi faire de sa peau, de son corps, dans un milieu urbain. Là, on est à l'inverse, mais il y a cette idée d'être dans un endroit qui est inadapté à soi.
Oh bah, à tout moment, moi, j'ai le sentiment d'être dans un endroit inadapté à moi. Ce fauteuil qui a l'air de vous convenir à merveille, je le trouve un peu raide, pour tout dire. Et sans accoudoir. Mais bon, c'est gérable. Mais peut-être que je suis plus attentif ou... En tout cas, plus douillet. Oui, comment dirais-je ? Oui, c'est plus douillet, je crois. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où je suis sensible à l'aspect des choses qui fait que ça ne va pas. Et c'est vrai que souvent, ça ne va pas. Quoi. Je suis dans un TGV, il y a quelqu'un en face, ça ne va pas. Dans un carré, il y en a quatre, hein, bon, dont moi. Enfin, bon, ouais. À tout moment, se pose la question de la répartition de l'espace. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais... Donc, j'aime bien écrire sur des personnages et les mettre en scène dans des décors qui sont pas toujours impressionnants, enfin qui sont, on pourrait dire, quotidiens, mais cette nature là qui est un endroit naturel, légitime et sauvage pour ce citadin, c'est totalement effrayant parce que effectivement il n'y a pas de réseau déjà, ça c'est quelque chose de, c'est une dimension de notre rapport à l'espace qui est quand même assez nouvelle, mais qui fait qu'il y a dans la vie, il y a des endroits où ça capte et d'autres où ça capte pas. En dehors de toute considération météorologique et géographique, ça capte ou pas. Bon, ben, ça pose un... Moi, là-haut, il n'y a pas le téléphone, vous voyez. Donc, c'est vrai que ça me reporte un peu sur des sensations passées de l'adolescence, l'enfance, où effectivement, ça captait pas. Et pour cause, il n'y avait pas de téléphone. Donc, c'est comme un voyage dans le temps. Et le fait de devoir faire 2 kilomètres pour envoyer un texto. Ça met aussi à distance ceux dont on est proche. Tout ça fait que, oui, l'insolite, il nous guette tous, quoi. Et on est tous. D'ailleurs, si on faisait un sondage, je suis sûr qu'il y en a qui estiment être bien assis, là, et d'autres qui seront pas à l'aise. Bon, bah, tout ça m'intéresse. Et c'est pour, je questionne en permanence les autres. Et ce rapport-là de Franck à la nature, c'est un peu celui que je recrée dans la mesure où moi, je suis un peu. Je sais que tel bruit la nuit, c'est des chevreuils, et tel autre, ça va être des sangliers, mais très probablement qu'un citadin un peu plus conventionnel ne le serait pas. Il pourrait dès lors s'en inquiéter, parce que ça fait un bruit bizarre quand même, hein, les sangliers, quand on ne sait pas ce que c'est. Quoi. Bon. Et, bah, tout ça, je m'amuse avec ça, oui.
Je reviens au chien, parce qu'effectivement, quand Franck arrive, l'une des premières rencontres, si on peut dire, c'est la rencontre avec ce chien. Vous nous expliquez là qu'il y a quelque chose qui est lié au réel, qui est lié à votre expérience et au hasard, ou en tout cas aux circonstances. Et en même temps, quand on est un lecteur, cette scène avec le chien, elle dit énormément de choses d'un point de vue, je ne sais pas si on doit dire symbolique ou allégorique. Justement, ce chien qui est entre le chien et le loup, la sauvagerie, l'instinct, ce qui est de l'ordre de la domestication, le rapport au maître... Et tout ça, vous en avez conscience, ça n'est pas, enfin, c'est évidemment quelque chose que vous travaillez autour de ce que ça symbolise aussi, tout de même.
Ben, tout à fait, dans la mesure où, en tant que premier observateur de moi-même, je vois bien que par moment, si vous voulez, quand je suis à vélo dans Paris, entre les bus, les patinetteurs et les autres cyclistes, on sent que la sauvagerie, elle est pas loin. Il y a des moments où pourrait mordre, en tout cas, j'aboie. Et il y a une sorte de... Mais ça, bon, tout le monde le vit, tout le monde... Mais peut-être que tout le monde ne s'y arrête pas, parce que tout le monde n'a pas le temps, mais bon, il y en a qui gueulent, qui lâchent une insulte et qui continuent. Moi, à tout moment, ça, je me dis, merde, je m'arrête, qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu viens de mettre un coup de pied dans la portière d'une voiture qui, certes, voulait t'écraser, mais que tu ne connais pas. Alors, j'essaie d'arbitrer, quoi. Et là, c'est pour ça que vivre, pour moi, prend du temps. C'est très long, quoi. Mais ça me permet, après, de comment dirais-je, récupérer de cette sensation et de l'instiller dans un de mes personnages. Voilà, ce rapport avec cette prise de contact avec le chien, là, je l'ai un peu ressenti comme ça, moi, la première fois que je l'ai vu la nuit, mais en exagérant à peine, eh bien, j'en fais une scène signifiante pour Franck. Et là, pour le coup, c'est vrai qu'un chien... De toute façon, quand on rencontre un chien, c'est moins vrai en ville, mais dans un... Quand vous faites... moi, je vais là-haut sur les chemins de randonnée, parce qu'il y a le chemin de Compostelle, si vous voulez, qui passe pas loin. Bon, moi, j'aime bien le prendre à contre-courant. Comme ça. Pour emmerder le monde, il faut dire. Et chaque fois qu'on me demande s'il y a un raccourci, je dis... Oui, parce que le Lot fait des boucles, donc parfois c'est idiot de faire tous les... Il suffirait de... Je leur dis, oui, c'est possible, il y a un passage, là. J'ai dû en noyer 3 ou 4, mais... Enfin, il n'empêche que quand vous êtes là dans ces chemins, et surtout le dimanche, vous tombez sur ces chiens de chasseurs qui ont perdu leurs chiens. Hein. Parce que le principe, c'est qu'ils partent avec plein de chiens, et ils ne les récupèrent pas tous. C'est-à-dire qu'ils passent plus de temps... Moi, je parle de... Les gens que je connais, pardon pour eux, mais à récupérer leur chien qu'à trouver le sanglier. Donc c'est de la chasse aux chiens qu'ils font. Et moi, parfois, je tombe dessus. Et... Alors, je ne les connais pas tous, loin de là. Et il y a un moment, quand on tombe sur un chien éreinté, comme ça, assoiffé, fatigué, on ne sait pas bien comment ça va se passer. Et ça se joue un peu dans le regard. Quoi. Et il y a certains chiens, on sent qu'il ne faut pas les regarder. Et là, ça s'apaise. Bon. Bon, mais tout ça, je le fais... Enfin, Franck le découvre, ce contact avec cet animal par le regard. Et à partir de là, ça va aller loin, parce que c'est le chien qui, petit à petit, va, on pourrait dire, le prendre en main, quoi, ce bonhomme. C'est là que je m'amuse et que je pousse le réel. Quoi.
Je vais lire un petit extrait, si vous le voulez bien, et puis je vous demanderai peut-être de réagir. C'est une scène où, précisément, Franck... parce qu'il est très oppressé par sa présence dans ce gîte, va au village le plus proche pour d'abord trouver de la connexion sur son téléphone et puis pour pouvoir se mettre au calme pour éventuellement appeler ses associés. Et donc il est sur le marché du village. Je vais lire cet extrait puis je vous demanderai peut-être de réagir. Franck était fasciné par cet étal comme il l'aurait été par le sanctuaire d'une religion qui glorifierait ses morts avant de les dévorer. Sans être vraiment végétarien, depuis 10 ans, il mangeait de la viande uniquement quand il ne pouvait pas faire autrement. Lise l'avait convaincu depuis longtemps. Il ne trouvait rien de choquant à ce que les autres en mangent, seulement devant toute cette barbaque, aussi palpitante et crue, aussi vivante et concrète, avec en prime ce boucher aux mains rouges, ce type environné de couteaux immenses, un tel commerce lui semblait d'un autre âge et l'écœurait. Les aboiements du chien de la nuit dernière lui revinrent en tête, ce chien qui s'était mis à courir après on ne sait quoi. Ce chien qui, une fois de l'autre côté de la colline, avait hurlé à la mort, non pas une mort intemporelle et abstraite, mais la mort qu'il s'apprêtait à donner en crevant une des proies qu'il coursait. Toute la nuit, ce molosse avait dû courir après des créatures encore plus cruelles que lui, encore plus affamées. Franck était convaincu que si le chien s'était rué sur ses bêtes, c'était à cause du petit claquement de langue qu'il avait fait pour l'aiguillonner. À vrai dire, c'est lui qui l'avait déclenché, ce chien. Une fanfare stupide passa au milieu des allées. Voilà pourquoi il n'arrivait pas à avancer ni à reculer. Le visage du boucher était semblable à la couleur de ses quartiers de bœuf. Il n'y avait pas la moindre différence. Cette teinte rouge, il crut l'apercevoir chez tous les gens autour de lui, même sur ces mômes qui soufflaient dans leurs instruments à vent, une fanfare atroce. D'un coup, il eut la sensation de visiter une autre peuplade. Il se sentait immergé dans une tribu de chasseurs avides où les chiens étaient les alliés des hommes et où le reste, tout ce qui n'était pas eux, n'était que gibier. Peut-être que parmi tous ces gens qui l'environnaient, il y avait le propriétaire du chien vagabond, à moins qu'il ne soit réellement sauvage. Je voulais prendre cet extrait, ce qui me semble qu'il y a énormément de choses là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette impression très profonde d'un autre monde, d'une certaine manière, alors à l'intérieur même d'un pays qui est la France. Et puis, quelque chose qui est finalement l'effroi devant la sauvagerie, en tout cas la nature dans ce qu'elle a de plus sauvage. Est-ce que vous diriez que c'est aussi ça ce qui arrive à Franck, c'est-à-dire une sorte de stupeur, quoi ?
Alors, d'une certaine façon, c'est faire cette expérience-là que la... la beauté sauvage de la nature, et voilà, il y a sauvage. Et sauvage, ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Et l'attitude du chien qui se met comme ça à courir après un lièvre ou un chevreuil parce qu'il l'entend passer, c'est quand même c'est violent, quoi. Mais en même temps, c'est légitime, enfin, c'est naturel, quoi. Après, le fait de voir, ben là, il y avait un marché hier, quoi. Oui, alors je peux considérer que oui. Voir un boucher découper comme ça. D'ailleurs, moi, je pensais à un boucher en particulier qui il a pris sa retraite, mais enfin, il était un peu rougeau. Non, il était rouge. Enfin, il y avait quelque chose de très sanguin dans sa cordialité. Il y avait une poignée de main toujours un peu douteuse, sanguinolente. Mais enfin, bon, il était. C'est vrai que ce type-là, on ne savait pas bien. Alors du coup, quand on mangeait le tartare le soir, on ne savait plus bien si on mangeait un de ses orteils ou si on mangeait vraiment... Enfin bon, il y avait quelque chose d'un peu comme ça, carnivore, quoi. Et moi, j'observe malgré moi, mais ça, on en parlait avec Bégodeau ce matin, sur la distance qu'on prend par rapport à certaines habitudes alimentaires et par rapport à ce rapport à l'animal, parce que c'est quand même pas rien de manger. Moi, quand je faisais de la compétition en natation, manger du steak de cheval, du tartare de cheval, mais c'est pas possible. Comment c'est possible de faire ça? Ça me semblait naturel. Hein. On n'avait pas, j'étais dans un petit club, on n'avait pas les moyens d'aller à Font-Romeu pour faire des globules rouges, donc on mangeait les chevaux morts, pas vivants. Et c'est vrai que ça. Alors, très objectivement, ça décuplait. On était tous en polyglobulus, c'est-à-dire qu'on avait plus de globules rouges que la normale. Mais bon, pas très loin, il y avait encore l'Allemagne de l'Est qui, eux, alors on passe sur les méthodes. Hein. Ça allait beaucoup plus loin. Hein. Bon, c'est pour ça qu'ils gagnaient, d'ailleurs. Mais quand même, c'est une sorte d'interaction très, très objective et très concrète entre le fait de venir de manger cette viande rouge et le lendemain de faire 2 centièmes de moins. Quoi. Enfin bon, ouais. Donc ça, il se rend bien compte, lui, qu'en se remettant, alors je ne dévoile pas un secret, parce qu'il va se remettre à manger de la viande, finalement, et il va retrouver une certaine pesanteur, une certaine acidité dans l'estomac, mais en même temps, une forme de ressort pour enfin prendre un peu sa revanche avec ses associés.
Mais c'est ça qui est très intéressant aussi dans le livre, c'est-à-dire que Lise... Et Franck, d'une certaine manière, croit opérer un retour à la nature dans leur vie parisienne. Dans la suite de cet extrait que je viens de lire, le personnage de Franck, il a des légumes partout sur les étals. Il veut trouver un magasin La Vie Claire pour avoir des petites vitrines climatisées, des légumes bien formés. Et au final, ce que vous dites là, c'est que aussi ce retour à la nature qui n'en est pas un ou qui est une nature peut-être édulcorée lui enlève les griffes à Franck d'une certaine manière ou lui enlève sa sauvagerie. C'est ça aussi l'idée du livre quand même qui est très, très intéressante et très profonde.
J'ai un peu peur que ça soit ça, oui. Mais il reconnecte à une forme de bestialité, pour dire des choses. Parce qu'il est plus habitué effectivement aux étals un peu... aseptisé. En même temps, bon, c'est du bio. Hein. Par moment, je ne sais plus où j'en suis, parce que mes parents ont un beau jardin, vous savez. Qu'il y a... Mais alors, est-ce que c'est bio ou pas? Il ne faut pas poser la question, parce que sinon, il y a l'oncle qui vous fout la main dans la gueule. Enfin, bon. Mais il n'empêche que ça ressemble à des tomates, ça ressemble à des... Et ça, quelque part, il est un peu satisfaisant, ce retour à cette considération-là, de se poser la question de savoir... qu'est-ce que je mange et quelle forme ça a. Et c'est pas grave si ça n'a pas une belle forme. Quoi. Bon. Mais en dehors de ça, Franck ne sait pas vraiment ce que c'est un marché. Quoi. Enfin, qui est un usage... pourtant, il y en a à Paris, hein, je ne veux pas non plus... Mais il est plus habitué au circuit de distribution. Parce qu'il fait les courses, quand même. Hein. Non, mais ça, c'est un point qui n'a pas été assez soulevé.
En effet.
Mon personnage masculin fait les courses. Et ça, comme quoi j'ai pas d'imagination, c'est moi, parce que j'ai besoin, moi, de savoir ce qu'on va manger. C'est-à-dire que mais même dans un restaurant, je suis embêté parfois, parce que je vois plus bien à quoi ça devait ressembler avant et je suis même plus trop sûr de ce que c'est. Vous voyez, c'est... Moi, j'ai quand même ce besoin-là. Bon, ben, lui, je le fais reconnecter à ça, quoi. Et de la même façon, ce jambon qu'il voit découpé, il y a un moment, esthétiquement, c'est quand même beau, quoi. Cette fine lame qui glisse, qui fait des lamelles. Et puis ce geste du boucher, c'est comme, enfin, c'est magnifique, quoi. C'est appétissant, quoi. Et bon, il redécouvre ça, il est un peu dans la position de Lévi-Strauss, débarquant dans une peuplade un peu étrange, qui mange ses animaux. Enfin, bon, il suffit, vous savez, parfois, ce décalage, il ne faut pas aller très loin. Il y a un exotisme dans ce livre, parce que moi, j'en ai marre de ceux qui me disent, tous les mois de juin, je vais aux Maldives, je vais au... Afrique, je vais dans le Groenland, mais bon Dieu.
Alors qu'il y a le Lot.
Oui. Mais en même temps, il ne faut pas le dire, sinon il y aura trop de monde. Mais... Et puis, je ne veux pas culpabiliser tout le monde sous l'angle du bilan carbone, mais il y aurait de quoi quand même. Et cet exotisme et cette nature, pour le coup, sauvage, comme je le disais, elle existe, mais dans des périmètres. Enfin, je veux dire, il suffit de faire 5 km ici. Moi, je suis un peu amoureux de la géographie de ce pays, mais je dirais même de l'Europe, quoi, parce que c'est un territoire fascinant, l'Europe. Alors, la France, évidemment, entre Manosque et Douai, entre Saint-Tropez et Brest, c'est pas les mêmes toits, c'est pas le même climat, c'est pas la même nourriture, c'est quand même fou, ce pays, et si on l'élargit à l'Europe, c'est encore pire, quoi. Et moi, j'écris, en fait, depuis toujours, je ne sais pas pourquoi, un peu contre les États-Unis, enfin, contre les Américains. Parce qu'on m'a bassiné avec le nature writing. D'ailleurs, il n'y a pas d'équivalent. C'est quoi la traduction de nature writing?
On dit beaucoup la littérature des grands espaces.
Ah bon?
Pour tout ce qui est les écrivains du Montana, les Rick Bass, David, cette littérature-là, notamment.
Oui. Mais ça, c'est pour les Américains. Mm-hmm. Mais pour nous, enfin, les Français, on dit qu'il n'y a pas d'équivalent. Donc, on met ça, c'est du nature writing. Mm. Je l'ai eu une fois ou deux. Ça me fait plaisir, mais pourquoi on n'a pas l'équivalent? Non, parce que des espaces, on en a aussi. Quoi. Il y a à tout moment, j'ai envie de le dire, j'entendais un auteur américain qui a écrit Les Furies, je ne veux pas dire son nom, qui disait que. En France, la France est un pays homogène, alors évidemment, ça stimule moins l'imagination. Oh bah merde. Viens à Manosque et puis après, on va aller à Châteauroux. C'est pas un pays homogène, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est parfois compliqué à comprendre, ce pays. C'est la fameuse phrase du général de Gaulle, hein, puis qui fait 360 fromages, comment voulez-vous? Ben oui. Donc, moi, j'ai envie de prendre le terroir à bras-le-corps un peu, quoi. Et c'est pour ça que souvent, j'amène... Mais mon premier roman, qui s'appelait Vue, ça se passait aussi un peu là-bas, quoi. Sauf que j'étais plus abstrait, je ne donnais pas les détails, mais j'ai toujours envie de ramener ce qu'on fait tous, finalement, à certains moments, quand on retourne vers sa famille ou quand on part en vacances en été, en hiver, on retourne vers les espaces, les grands espaces, ou en tout cas la campagne, la nature, quoi. Ça, c'était... très présent en moi, parce que ma famille vit dans un milieu rural quasiment sans exception, sauf moi, et que j'ai pas toujours quitté ces endroits. Quoi, et quand j'y suis pas, j'écris dessus.
Peut-être on va revenir sur la période plus historique, 1914. Dernière chose là-dessus, vous disiez tout à l'heure que le fait de justement reconnecter avec cette nature sauvage permettait à Franck de se repositionner dans sa vie personnelle et notamment dans la relation qu'il a avec ses deux associés qui sont par ailleurs des jeunes loups, hein, donc on retrouve aussi quelque chose de cet ordre-là dans le livre. Et c'est aussi l'occasion pour vous à cet endroit-là de réfléchir, parce que Franck est producteur de cinéma, il a deux associés comme ça qui sont dans un nouveau mode de production, le rapport à Netflix, etc. Et cet endroit-là, c'est aussi une réflexion là-dessus qui vous tient à cœur, j'imagine, sur ces modifications, finalement, aussi, lui, dans son métier, mais qui sont plus globalement des changements d'époque.
Oui, parce qu'il y a quand même des nouveaux acteurs de l'économie artistique, on va dire, qui sont un peu inquiétants. C'est effectivement Netflix et Amazon qui ont une sorte de postulat. Alors, que ça se régénère, c'est très bien. Mais le problème, c'est que eux, ils veulent complètement réinventer le schéma. Hein, c'est-à-dire que Netflix, à chaque fois que j'en ai entendu parler, j'ai adapté plusieurs de mes romans, d'autres sont en cours. Enfin bon, ce qui fait que des producteurs, j'en vois, quoi. Et, C'est des gens que je vois physiquement, avec qui on déjeune, etc. Enfin bon. Alors que les gens de Netflix, depuis 3 ans que j'en entends parler, je les ai toujours jamais vus. Je ne sais même pas leur nom. Je n'ai jamais eu une carte de visite, quoi. Donc c'est des gens un peu abstraits comme ça, mais en même temps, c'est leur propos. C'est de, qu'il y ait de moins en moins de... Le problème, ce qu'ils ont c'est, dans le cinéma, c'est qu'il y a des salles de cinéma. C'est, ça ne sert à rien de... C'est ça, vous êtes bien fous, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si bientôt Amazon vous dira le problème c'est le livre quoi. C'est, le texte c'est intéressant mais le problème c'est l'objet c'est un peu ça quoi. Et leur arrière-pensée et je ne sais pas s'ils gagneront j'espère pas, en tout cas pas en France parce qu'en France il y a un vrai réseau de salles de cinéma encore même si ça a baissé très fortement sur les 6 premiers mois de l'année là, la fréquentation mais c'est vrai qu'une fois qu'un film est fait pour eux il suffit de le mettre dans les tuyaux. Les tuyaux, enfin le câble, quoi, ou la fibre. C'est tellement simple. Pourquoi attendre 3 semaines pour le mettre en salle et après attendre 1 an pour le passer à la télé et attendre 8 mois pour le mettre sur Canal+, c'est complètement dingue. C'est pas raisonnable. Bon. Et ce schéma-là, il est à la lutte avec un schéma plus traditionnel dont participe Franck, qui est un producteur normal, on va dire. Alors, si je dis à l'ancienne, c'est que j'ai déjà perdu le combat, mais... Enfin, c'est-à-dire quelqu'un qui d'abord choisit ses sujets, ses réalisateurs, et qui après passe des mois, des années à essayer de monter un film avec des comédiens, sachant qu'ils sont disponibles ou pas. Enfin, voilà. Et là, il y a un vrai échange et il y a des relations humaines. Quoi. Alors que Netflix, même si on m'a proposé une fois un contrat, j'ai jamais vu personne. C'est quand, même... quand j'ai cherché l'adresse, ben, il n'y en a pas à Paris. Il y en avait une au Luxembourg, maintenant elle est aux Pays-Bas, et peut-être qu'il y en aura une en France dans le courant de l'année. Enfin, c'est quand même fou, ça, de se proposer de dominer tout un secteur de la culture sans être accessible, sans même savoir qui il y a derrière. Moi, ça m'affole. Donc, j'ai opposé à Franck ces deux personnages, Liam et Travis, qui sont un peu des jeunes loups, comme j'en vois, hein, qui ont plutôt moins de 30 ans et qui ont... Oui, voilà, ils ont une formation un peu différente. Ils regardent leurs films, ils regardent des films sur le portable, c'est pas un problème. Regarder des séries sur un smartphone... Moi, ça me semble un peu difficile quand même, mais alors que ça leur semble normal. Donc, c'est-à-dire que là, il y a quand même, on ne parle pas de la même chose. Hein, alors que je vous rappelle qu'il n'y a pas si longtemps le projet. Alors évidemment, c'était pas non, il n'y a pas si longtemps le projet, c'était de mettre toutes les salles. Ça, je me souviens de ça en 3D. C'est-à-dire, on me disait, il n'y aurait plus que des salles 3D. De la même façon qu'on m'a dit il y a 15 ans, il n'y aurait plus que des livres en tablette là. Vous savez, au Salon du Livre à Paris, il y avait. Jacques Attali, qui avait installé tout un stand comme ça, je ne sais plus comment ça s'appelait, et il prophétisait qu'il n'y aurait plus besoin de faire des livres, puisqu'il suffirait de lire sur une tablette. Bon, alors, c'est vrai que ça existe, la tablette, mais ça n'a pas gagné la partie. Bon, bah, moi, j'ai un peu peur de Netflix et d'Amazon pour ça. Je ne voudrais pas qu'ils gagnent la partie, parce que, tout simplement, ça déshumanise. Alors, comme en vrai, je ne peux pas facilement prendre ma revanche, je la fais prendre là. Quoi.
Et on va évidemment pas dire ce qui se passe autour de ça. Je vais juste lire ce petit extrait qui laisse penser effectivement que Franck va opérer une forme de vengeance vis-à-vis de ces deux personnes. Vous écrivez ceci, ce grand chien loyal, il devrait peut-être l'envisager comme un allié, un vrai allié celui-là, pas comme les deux autres, un allié fiable qui serait réellement prêt à l'épauler, au point même de fomenter un stratagème avec lui, un genre de parfaite revanche en forme de piège pour les coincer, ces deux connards, faire de ces deux chasseurs deux belles proies. Voilà, et ensuite, évidemment, je laisse au lecteur découvrir ce qui va se passer. Je vois que le temps passe très vite, on va dire un mot quand même aussi de cette période de 1914 et de ce moment-là, avec peut-être quelque chose qui tourne autour de la présence des femmes dans ce village dont les hommes... que les hommes ont quitté pour partir au front. Alors, il y a la présence de ce dompteur, il y a encore le maire, etc., dans le village. Et puis, il y a ce très beau personnage de Joséphine. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, qui est un personnage qui est une veuve de guerre et qui est une sorte de symbole aussi de la liberté, de la désobéissance, de l'émancipation, non ? Comment est-ce que vous diriez cela ?
Joséphine, j'aime bien, je l'aime, enfin, je veux dire, c'est une femme, enfin, ça va être la première à apprendre qu'elle perd son mari, quoi, voilà. Donc, c'est un statut un peu, elle se découvre comme ça, veuve, disons, et finalement, dans ce village qui n'est pas très grand, c'est comme si elle était une sorte de paratonnerre, c'est-à-dire que le malheur est tombé sur elle, donc ce ne sera pas pour nous, quoi. Donc, quelque part, ça la met un peu à l'écart. Et finalement, c'est elle qui va se rapprocher du dompteur, sachant que ce dompteur... Là, on a l'impression que je parle d'un autre roman, mais en fait, c'est le même.
Évidemment que ces deux dimensions, mais il faut laisser au lecteur le plaisir de découvrir tout ça, que ces deux dimensions se rejoignent, se répondent et sont en résonance, évidemment.
Oui, et cette histoire qui se tisse un peu à l'ombre de l'histoire contemporaine, qui se joue dans cette même maison, parce que le territoire commun, c'est cette maison. Hein, et ça, c'est une question que je me pose, moi, quand je suis dans cette maison en particulier, mais ça pourrait être vrai pour d'autres. Vous savez, dès lors que vous êtes dans une maison du 18e siècle ou fin 17e, enfin, ça pose la question de savoir qui y a eu avant, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on y a fait, quoi. Et c'est pour ça que je m'installe mon dompteur là-dedans, avec Joséphine qui, petit à petit, ira jusqu'à le rejoindre, sachant que lui, c'est un peu l'être maléfique. Déjà, il est allemand, et ça ne se passait pas très bien pour les Allemands qui étaient en France en 14. Hein, les préfets, parfois, ordonnaient même de les mettre en prison pour pas qu'ils se fassent lyncher. Et puis, il y a toute une légende dans le Lot, alors je pense qu'il y en a ailleurs, mais sur une femme allemande en voiture qui se baladait pour distribuer des bonbons empoisonnés du côté de Figeac. Et cette légende, elle est vraie, mais c'est une légende. Alors, savoir si la légende est vraie, je ne sais pas. Enfin, je veux dire, est-ce que la femme a vraiment existé ou pas, je ne saurais pas vous le dire. Mais en tout cas, on en parlait, quoi. Et donc, cet Allemand, en plus dompteur, et en plus avec des faux, c'est ça que je voulais mettre un peu en scène. C'est-à-dire que les campagnes étaient affectées par, évidemment, le départ des hommes, des maris, des fils, des enfants, qui, du jour au lendemain, disparaissaient comme ça. Et là, pour le coup, ils étaient plus joignables. C'est-à-dire, c'est quand même un truc atroce, quoi. Aujourd'hui, quand quelqu'un n'est pas joignable pendant 24 heures, on est en alerte, quoi. Et là, c'était... Déjà, vu du Lot, l'Allemagne, c'est où, quoi ? Enfin, je veux dire, c'est presque improbable. Et en même temps, les animaux qu'il y avait là, qui étaient un peu la richesse primordiale, il fallait petit à petit... Ils étaient réquisitionnés, donc c'est-à-dire que tout ça partait rejoindre les hommes, 25 000 vaches par jour qui montaient là-haut dans des trains, et des vaches vivantes qu'on tuait une fois sur place, parce qu'évidemment, il n'y avait pas de camions frigorifiques. Enfin, tout ça, c'était quand même... C'est-à-dire on saignait ces campagnes-là, où seules les femmes résistaient. Bon. Cet Allemand au-dessus d'eux, avec ses lions, c'est quand une menace de plus, quoi. Et bon, je me suis amusé avec ça, on peut dire, oui, parce que c'est amusant à écrire, en même temps, c'est assez terrorisant. Et puis, voilà, Joséphine se rapprochera du dompteur. C'est ça que vous vouliez savoir, précisément, quoi.
Vous savez, moi, je vous donne des pistes, mon cher Serge, c'est après à vous qui en disposez. Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être de ce personnage qui est le personnage du berger ? J'ai noté une petite phrase là que je vais vous lire. Le simple, c'est la folie des nations qui avaient fait de lui un être d'exception, un être humble, devenu inestimable et irremplaçable. Lui, il est en haut, effectivement, c'est un berger, il ne sait pas que la guerre est...
Ah ben merci de parler de lui, parce que oui, il est toujours un peu à l'ombre, le simple. Oui, ben, je ne sais pas. Moi, il y a toujours eu... Du côté de ma famille, il y a toujours un être un peu comme ça. Je pense à quelqu'un de particulier qu'on appelait vraiment le simple. Mais ça voulait tout dire, mais en même temps, c'était comme une sorte d'être un peu finalement supérieur, parce qu'il était dégagé de pas mal de contraintes. Et il était en connexion comme ça, avec le surnaturel, ou en tout cas l'immatériel, sans même l'intermédiaire de Dieu. Enfin bon, ouais. Moi, le simple, j'y tiens beaucoup dans ce roman. Hein. Même si on ne sait pas bien ce qu'il trafique là-haut. Hein. Enfin, je veux pas ternir l'image que vous aviez de lui. Mais enfin, il n'est pas si simple que ça. Alors là aussi, ça m'amusait de me dire, tiens, à un moment, ça serait bien que Joséphine aille le remplacer. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi, l'écriture d'un roman. C'est-à-dire, j'ai un dispositif en place et je me dis à un moment, tiens, ça serait bien que Joséphine aille là-haut. Mais alors, dis donc, pourquoi ? Pourquoi on ramène le simple ? Pourquoi c'est elle qui tourne là-haut ? Enfin, bon, c'est une construction comme ça, très alambiquée. C'est recréer un peu des contingences qui nous concernent tous au quotidien, quoi. Faire un roman, moi, à chaque fois que j'ai fini, je me dis comment j'ai fait. Enfin, surtout, je me dis comment je vais faire pour en refaire un autre. Ça me semble insurmontable, impossible de tout rassembler. Alors là, oui, bon, c'est affolant de rassembler tous ces éléments, parce que, bon, là, effectivement, celui-là, il est un peu, Il a l'air compliqué comme ça, mais c'est vrai qu'on parle de 14 et d'aujourd'hui, on parle de Netflix et de et du véganisme, on parle de d'un chien loup et des chevreuils qui aboient, parce que, chose que parfois on ne sait pas. Enfin bon, ça fait du monde, quoi. C'est-à-dire que et tout ce monde-là m'a visité pendant 2 ans. Alors dis donc, c'est pour ça que c'est un bazar chez moi. Je ne saurais pas vous dire. Et la seule forme un peu rassemblée de mon être, elle est dans un roman. C'est-à-dire que, sachant qu'il y a un moment, il y a un éditeur, enfin, une éditrice en ce qui me concerne, qui va... Il faisait 200 pages de plus. Hein, enfin, bon, qui va essayer de rassembler, sachant que ça l'est quand même déjà. Mais enfin, et puis ça fait sens, quoi, à un moment. Enfin, pour moi.
Hein, oui, je crois qu'on peut le dire, en effet. Et les deux temporalités, vous les avez travaillées en même temps ? Ou est-ce que vous avez pris... Enfin, comment est-ce que ça a marché dans l'écriture, précisément, ces deux temps qui, encore une fois, sont évidemment liés ?
Jusque-là, on avait fait toute la rencontre sans prononcer le « en même temps ». Ce qui relève du... Parce que je l'entends partout, moi, je ne sais pas pourquoi. Et parfois, je me surprends à le dire, je me dis « non, c'est militant ». C'est quand même curieux. Ben oui, j'ai écrit ça de façon simultanée. Et ça, pour le coup, je ne sais pas comment j'ai fait. Parce que c'est vrai qu'il y a 2-3 jours, voilà, ou une semaine, j'étais en 14. Et puis la semaine d'après, j'étais en 2017. Et ce n'est pas si simple que ça, sachant que il ne faut pas transposer le carburateur de l'Audi Q7 dans la carriole du Fernand Lemaire. Mais enfin, bon. Et quand on fait vivre ces personnages en 14, cette fermière qui rentre le soir dans sa maison, elle ne met pas la télé. Enfin, il y a une configuration mentale dans laquelle il faut se conformer. Et en même temps, c'est plaisant de faire ça. C'est comme un jeu, quoi. Et ça suppose parfois de faire des recherches, parce que ah oui, comment elle allumait la lumière ? Évidemment, la lampe, oui, mais alors il n'y avait plus de pétrole. Parce que, ben, il revenait à la bougie en pensant, où est-ce qu'elle a acheté la bougie ? Ben, au marché, là où il y a le boucher. Enfin bon, voyez.
Oui, ce n'est pas seulement du hasard, en fait, hein, l'écriture d'un roman.
C'est du hasard organisé.
Peut-être encore une dimension du livre qu'on n'a pas abordée, c'est le personnage de Lise. Comment est-ce que vous l'envisagez ? Elle est quelque part plus effacée que le personnage de Franck, moins présente dans la narration, et pour autant elle est totalement décisive dans, je dirais, le destin de Franck ou dans sa métamorphose, à la fois dans l'impulsion première, et puis, j'ai pas dit en même temps, à la fois dans l'impulsion première, et puis aussi dans la manière dont elle le laisse aller au bout de son plan et de son envie de changement. Comment est-ce que vous l'avez envisagé, ce personnage-là ?
Je l'envisage en essayant de recréer un couple. Mais qu'est-ce que c'est qu'un couple ? C'est toujours fascinant de voir comment les couples fonctionnent. Enfin, je suis pas là non plus à les suivre. Mais enfin, j'aime bien voir comment ça interagit, quoi, dans un couple. Et là, effectivement, et elle, c'est une comédienne qui ne tourne plus. Et ça, c'est une situation qu'on rencontre. Enfin, je veux dire, c'est toujours un peu en même temps désolant, mais ça peut être vrai d'auteurs qui écrivent plus ou de réalisateurs qui ne tournent plus. Enfin, c'est la chance qu'on a, nous, en tant qu'auteurs, par rapport à ça, c'est qu'on a besoin de personne pour faire son livre, quoi, son texte, en tout cas, son manuscrit, on va dire. Hein. On va dans son coin et on le fait. Quoi. Alors qu'un comédien, une comédienne, il est quand même terriblement tributaire des désirs de l'autre. Et ça m'a toujours, je dirais, angoissé par procuration, parce que chaque fois que je vois un comédien, j'ai cette projection-là, je me dis, bon Dieu, mais même on a tourné enfin, un film avec Cadmérat, ça va pour lui, quoi, si vous voulez. Mais il y a toujours un moment où je me dis, bon Dieu, mais si un jour, quand il sort dans la rue, lui, c'est tout le monde le reconnaît. C'est vrai. Enfin, c'est plus que ça. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas qu'ils ne le reconnaissent pas. C'est-à-dire que ils lui disent, mais Cad, je t'ai vu à l'émission, je ne sais plus quoi, je t'ai vu dans tel film. Donc il joue le jeu, oui. Je me dis, mais alors, imagine dans 15 ans s'il n'y a plus ça, quand tu vas faire les courses, plus personne ne te reconnaît, ça doit être affreux. Il dit, non, ça ferait du bien, mais enfin, je pense qu'il ne se rend pas bien, enfin, je ne sais pas. Bon, mais toujours est-il que ça. Lise, je voulais qu'elle soit dans cette situation-là, mais en même temps, elle le vit d'une façon harmonieuse parce que c'est recentré, quoi. C'est un être, non pas en équilibre, mais un être équilibré. Et ça, comme personnage, travailler sur un être équilibré quand on est auteur, c'est pas facile, hein, parce qu'on manque de modèles, quoi. Je veux dire, on a beau regarder autour de soi. Alors, ce que je fais, moi, je fais semblant pendant 15 jours pour voir ce que ça pourrait donner. C'est dur, hein. C'est dur. Donc, elle fait du bien. Voilà, il y a des êtres comme ça qui sont des sortes de bienfaits, quoi. C'est un peu apaisant. Mais moi, je suis très attentif à ça, vous savez. Dans toutes les situations de la vie, il y en a qui enveninent et d'autres qui apaisent, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui n'en finit pas de mettre. Vous, par exemple, vous êtes quelqu'un d'assez apaisant, malgré tout. Enfin, je veux dire, la bienveillance, elle est claire, elle est transparente. Et en même temps, on est quand même dans une situation qui n'est pas... Oui,
Je vais me permettre, Serge...
Une situation qui n'est pas si simple, parce que, très franchement, je me mets à votre place pour essayer de parler de ce livre, on ne sait pas bien par où le prendre, quoi.
On a essayé, il me semble qu'on en a pris quelques...
Voilà, c'est pour ça, et en particulier d'avoir reparlé du simple, qui est un personnage qui compte, et pourtant qui est un peu à l'abri là-dedans, mais de l'avoir vu, lui, de le ressortir, ça me fait plaisir, quoi. C'est que vous êtes humain, quoi, parce que le simple, il faut le voir. Quoi. Il faut...
Une bonne nouvelle.
Ouais.
Je vais...
Pour vous.
Je vais révéler quelque chose de très personnel, mais je suis sûr que vous me le pardonnerez. Vous m'avez envoyé ce livre avec une petite dédicace très sympathique et agréable. Pour toi, chère Yann, sache que te revoir, même sur scène, sera nettement plus agréable qu'une séance chez le dentiste. Donc, en effet, ça s'est pas trop mal passé.
Pas mal, pas de douleur.
Je relis juste un tout petit extrait, ce que vous avez évoqué, la manière, et puis ensuite je donne la parole au public, dont vous travaillez aussi autour de cette idée du couple, et vous dites des choses très belles sur cette question-là. Je vais juste lire ce petit extrait. Ils se serrèrent tous deux comme le feraient deux êtres se retrouvant sur un quai de gare après des mois de séparation. Là, dans cette nature primitive, ils redécouvraient la force du lien qui les unissait. Ils ressentaient cela. On s'aime mais on ne se le dit plus. On s'aime de telle manière qu'il n'y a même plus lieu de se le dire, de le penser. C'est peut-être le stade ultime de l'harmonie, le seuil de la béatitude entre deux êtres, l'amour devenu à ce point naturel qu'il ne s'énonce même plus. Merci à vous, Serge. Je donne la parole au public. Si vous souhaitez prendre la parole, on va vous passer un micro. On a tout dit. Enfin, finalement, on a tiré beaucoup de fils.
Non, mais c'est toujours... Je vais vous dire, c'est à la fois très satisfaisant et très gênant. Il n'y a pas de question. Quelque part, on se dit, oui, effectivement, j'ai tout dit. Et en même temps, je me dis, oh, ouais, alors, ils n'ont plus envie qu'on en parle. Donc, c'est un peu une sorte de double. Mais bon, vous savez, la vraie difficulté, c'est la première question. C'est la plus dure à poser. D'ailleurs, j'ai noté qu'ici, à Manosque, en tout cas, les premiers rangs ne sont pas vides. Parce que, bien souvent, dans les rencontres, quand bien même on se trouve dans une librairie qui n'est pas gigantesque, il y a 30 sièges, bon, ben. Il y aura des gens assis, il y aura même debout au fond, mais pas en premier rang. Et vous savez à quoi ça tient ? C'est simplement que quand on est au premier rang et qu'on veut partir, pour une raison ou pour une autre, ça va être un peu flagrant, quoi. Alors qu'au moins, au fond, on n'est plus... Bon, à Manosque, on est en confiance, parce que même au premier rang, il y a du monde. Ouais. Alors pour la question, n'hésitez pas, je dirais... Si vous voulez, même un renseignement sur les horaires de train, parce que je les ai vus.
Une question fort peu littéraire. Envisagez-vous, pour la suite de votre vie, de vous reconvertir en comique ?
Ça, on me l'a proposé. Non, parce que le problème des comiques, c'est qu'ils écrivent un texte et après, il faut le reproduire. Quoi. Et moi, je n'ai pas de mémoire. Absolument aucune. Parfois, alors, on m'a proposé une fois d'écrire pour quelqu'un comme ça. Mais C'est un exercice que... Non, en fait, moi, je me concentre sur le roman. Ouais. Après, c'est l'attitude de chacun dans la vie d'être drôle ou pas. Enfin, dans ma famille, l'humour, c'était un peu... Ça existait, quoi. C'est important. Pourquoi, je sais pas. Hein, pour désamorcer, bien sûr, un peu du réel. Mais en même temps, pour... Il y a une sorte de gaieté, comme ça. Enfin, je ne dis pas qu'on... C'est pas tout le temps non plus. Enfin, je veux dire, c'est... Quand j'arrive chez mes parents, ça rit pas aux éclats, mais quand même. Disons que s'il n'y a pas de rire, c'est qu'il manque quelque chose, quoi. Et ça, c'est pas explicable, à vrai dire. Et j'ai le sentiment, parfois, moi, même quand je dis au contrôleur, j'ai pas mon billet, ça le fait marrer. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a... On ne me prend pas vraiment au sérieux, mais ça me va bien. Hein. Il n'est pas question de moi, là, il est question du livre. Donc c'est le livre le plus important. C'est pour ça, moi, je me cache un peu derrière, quoi. Mais moi, cas par cas, on ne me prend pas vraiment au sérieux. Et ça tient très probablement une sorte de dilettantisme. Moi, j'ai fait ma scolarité chez les Lassalliens, les oratoriens et un peu les jésuites pour finir, histoire de faire un peu tout, quoi. Il faut tout essayer dans la vie. Et puis, je ne pouvais plus sortir du public. Hein, bon. Et dans les trois cas, le même surnom m'est venu. Il faut dire que c'était des milieux sociaux un peu favorisés, ce qui n'était pas mon cas, mais bon. C'était le touriste, en parlant de moi. Vous savez, on se donne des surnoms comme ça. Allez. Et je suis toujours un peu à distance. Quoi, un peu, je regardais la classe puisque je participais. Quoi. Et j'ai appris à faire rire en classe. Enfin, c'était pas facile, hein, parce que entre le frère Husneau qui nous apprenait le latin à coups de points américains, et puis la prof d'espagnol qui nous tapait, même à 15 ans, hein, qui nous faisait mettre les doigts comme ça, vous savez, avec la règle. Pour glisser de l'humour là-dedans, il fallait être tenace. Hein.
Ça a été une bonne école.
Vous avez un théâtre, sinon non. Sinon, on veut bien faire l'essai.
Monsieur, allez-y.
Moi, je voudrais revenir au livre que j'ai adoré. Et je voudrais vous dire, chaque fois que vous avez lancé Franck dans la nature, je tremblais, j'avais peur, je le voyais perdu, il y avait des ronces, tout ça. Et à chaque fois, vous le sauviez, c'était génial. Comment vous vous y prenez pour nous emmener comme ça et nous perdre dans les bois et nous ramener toujours au point de départ?
Alors, maintenant, c'est facile parce qu'il y a la... Alors, quand ça capte pas, ça capte pas. Mais quand ça capte, il y a la géolocalisation. Mais le cos, enfin sur le Quercy, je parle en particulier du Quercy finalement. Et c'est vrai que c'est très un peu piégeux parce que toutes les collines se ressemblent et par moment on est sûr que c'est par là. Et en fait, on se plante complètement, même sur des terrains que je connais bien depuis longtemps. J'arrive encore à me paumer, c'est vous dire quoi. Donc ça, je l'ai prêté à Franck et moi j'aime bien en dehors du GR, enfin qui est le chemin de Compostelle, dès qu'on sort un peu, il y a tout un maquis. Il a fait de houx et de buis, enfin s'il en reste du buis, bon. Puis des ronces qui sont impénétrables, mais vraiment, et je suis toujours un peu fasciné à l'idée de me dire que là, cette nuit, des chevreuils et des sangliers et des chiens après eux ont cavalé là-dedans. Donc voilà, moi je voulais le plonger dans ce territoire dont je connais les sensations, mais ça m'intéressait de voir comment lui allait s'en sortir, comme vous maintenant, je vais vous observer pour voir comment vous allez vous en sortir sans parapluie. Là, c'est un peu à mon tour de vous voir faire, là.
Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va laisser Serge vous observer. Ah non, il y en a là-bas des questions. Alors allez-y, je vous en prie.
Oui, bonjour. J'ai bien aimé tous vos livres que vous avez écrits sur la nature. Mais alors, un seul bémol... C'est quand vous allez à contre-courant des gens qui vont à Compostelle, parce que quand on les induit dans un mauvais chemin, croyez-moi, c'est douloureux.
Je le ferai plus. Non, mais... vous savez, dans le Lot, ils sont pas malheureux. Il y a des étapes, il y a ce qu'il faut. On est même prêts. Le problème, c'est que quand je prends le petit-déj le matin, Alors, je n'ai pas obligé de dire bonjour sans arrêt. Et parfois, le matin, on n'a pas envie, quoi. Et alors... Quand c'est des Russes qui vous... Oui, parce que alors, c'est devenu cosmopolite. Hein. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est de voir que de plus en plus, ils viennent avec des mules, enfin des ânes, oui, pour porter les... Et ça, c'est comme un retour dans le... Alors, par moment, je me vois transposé en 14 alors que je suis là en train de prendre mon petit déjeuner, vous voyez, avec des mules qui passent et des gens derrière. Enfin bon. Mais je ferai plus, je vous promets.
Allez, madame, encore une question, et puis on va laisser Serge aller signer sous la pluie.
C'est pas une question, mais ce matin, M. Jeancourt m'a dit « Je suis sûre que ce soir, il pleut. Je l'ai pas cru, et ben il pleut. »
C'est ça, l'imagination, ouais, ce que ça donne. Hein.
Les écrivains visionnaires. Vous pouvez retrouver Serge Jeancourt tout de suite, là, pour un temps de signature. Je sais pas où ça va se passer.
Merci,
Serge.
Merci. À vous. Merci.